Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur, avec chaque commandement une paix, cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce lundi 29 mars 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. Merci de votre écoute. Deux convois transportant du matériel logistique pour les troupes américaines dans le centre et le sud de l'Irak ont été visés. Marche pour le climat, les organisateurs revendiquent 110 000 manifestants en France et 483 migrants clandestins secourus au large de la côte occidentale de la Libye. C'était les principaux titres. En voici le journal. Quelques semaines avant que l'Iran et la Chine scellent une alliance stratégique de 25 ans, les sources d'information ont fait état d'un cyberpacte irano-russe. En termes de conséquences, ce pacte n'est pas moins important que l'accord sino-iranien. Le groupe de réflexion américain en explique la raison. C'est inquiétant puisque le récent accord Iran-Russie, qui porte sur la cybersécurité, inclut le transfert de technologies, la formation mutuelle et la coordination dans les forums internationaux, est susceptible de créer de nouveaux obstacles pour les États-Unis et leurs alliés au Moyen-Orient. C'est une stratégie de défense basée sur les intérêts communs des deux pays dans la lutte contre l'influence des États-Unis au Moyen-Orient, qui est à vrai dire le motif principal de la conclusion de l'accord, sans oublier la volonté de réduire la cyberdépendance vis-à-vis de l'Occident. L'accord représente quatre défis majeurs pour Washington, alors que l'Iran s'éloigne de l'accord nucléaire et a besoin de sécuriser ses sites atomiques, comme Fordo, Natanz, entre autres. La Russie peut aider l'Iran à développer des systèmes de cyberdéfense plus solides et plus résistants aux cyberattaques américaines. En contrepartie, l'Iran fournira à la partie russe des informations secrètes sur les technologies mises en place par l'Agence de sécurité nationale des États-Unis, NSC, pour mener des cyberattaques anti-US, les Iraniens ayant de belles expériences en la matière. Et puis la rétro-ingénierie russe de logiciels malveillants américains ou israéliens utilisés contre l'Iran pourrait conduire à des cyberattaques généralisées à l'échelle internationale contre les intérêts hostiles anti-Iran. Mais la cybersécurité des alliés américains et européens au Moyen-Orient sera compromise si l'Iran met à la disposition de ses alliés régionaux au Liban, en Irak et au Yémen la technologie russe. En effet, l'approche du président américain Joe Biden à l'égard de Moscou, plus stricte que celle adoptée par son prédécesseur Trump, semble avoir contribué à la stimulation des coopérations Iran-Russie pour contrer les intérêts américains dans la région de l'Asie occidentale. Quant à l'Iran, tout indique que le pari de la pression maximale est perdu et que Biden a tout faux. Deux convois transportant du matériel logistique pour les troupes américaines dans le centre et le sud de l'Irak ont été visés, ont rapporté des sources irakiennes. La chaîne Telegram Sabery News a rapporté ce lundi 29 mars que deux convois d'équipements logistiques de l'armée américaine avaient été attaqués dans la province de Babylon, centre de l'Irak, et la province d'Al-Divaniya, sud de l'Irak. Une source de sécurité irakienne a déclaré à Bagdad al-Yaoum qu'une bombe avait explosé sur le passage d'un convoi logistique de la coalition américaine dans une zone de la province irakienne de Babylon. Par ailleurs, le bureau irakien de renseignement militaire a annoncé lundi matin que les forces irakiennes avaient découvert et saisi plusieurs cachettes et armes appartenant au groupe terroriste Daesh dans l'ouest et l'est du pays. Selon les médias irakiens, les forces irakiennes ont réussi à démanteler un entrepôt de missiles et de bombes dans le désert de Bouayrat à Sarsar, dans la province irakienne d'Al-Anbar. De même, les combattants des Hashd al-Shaabi sont parvenus à saisir une cache d'armes et de munitions appartenant à Daesh dans la région de Zour al-Isla, dans l'est de la province de Dialla. À cet égard, le général de division Yahya Rasoul, porte-parole du commandant en chef de l'armée irakienne, a annoncé que les militaires irakiens avaient lancé une opération d'inspection et de déminage à la frontière entre Samara, Salahuddin et Dialla par la rivière Al-Azim, suite à quoi une cachette de Daesh contenant des corps non identifiés, des missiles Katyusha et des drones a été découverte. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sali, a déclaré qu'au cours de la 7e année de guerre contre le Yémen, de nouveaux systèmes de missiles intégreront l'armée. Si le régime saoudien n'arrête pas sa guerre et son siège contre le Yémen, nous pourrions recourir à des attaques que ce régime n'a jamais connues auparavant, a-t-il averti. La qualité et la portée des missiles de fabrication yéménites sont uniques. De nouveaux systèmes de missiles seront dévoilés au cours de la 7e année de la guerre, a-t-il fait savoir. Faisant allusion à l'opération de la Journée nationale de la résistance qui a visé les bases et les infrastructures militaires et sensibles de l'ennemi saoudien, le porte-parole des forces armées yéménites a précisé que l'opération de la Journée nationale de la résistance avait été menée avec 18 drones et 8 missiles balistiques. Les forces armées yéménites ont également lancé la semaine dernière l'opération baptisée 6e Shaban, lors de laquelle elles ont visé les installations d'Aramco à l'aide de 6 drones. Outre l'attaque contre l'aéroport international d'Abha dans la région d'Asir, les combattants yéménites ont frappé un important site militaire saoudien par un drone Rasef K2. Cette attaque a été une réponse à l'intensification de la guerre et du blocus contre notre cher pays, a tweeté le général de brigade Yahya Sali. En France, plusieurs manifestations ont été organisées dans plusieurs villes ce dimanche 28 mars pour la lutte contre le réchauffement climatique, rassemblant 110 000 personnes, selon les organisateurs. Près de 600 organisations, syndicats et associations ont appelé les manifestants à se mobiliser pour demander une vraie loi climat, pour dénoncer son manque d'ambition et exiger un texte à la hauteur de l'urgence écologique à la veille de l'examen du projet de loi climat et résilience. En séance plénière à l'Assemblée nationale, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué de presse. Les organisateurs ont revendiqué un total de 110 000 manifestants, dont 55 000 à Paris et 10 000 à Lyon. Mais la police a compté 12 000 personnes à Paris et 4 000 à Lyon. Les députés français doivent examiner lundi prochain le projet de loi portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a annoncé dimanche que 483 migrants clandestins avaient été secourus au large de la côte occidentale de la Libye. Ces personnes ont été secourues lors de deux opérations distinctes par les gardes-côtes libyens, a précisé l'OIM. Alors que les équipes de l'OIM étaient sur place pour fournir une aide d'urgence, y compris un soutien médical, nous maintenons que la Libye n'est pas un port sûr, a-t-elle déclaré. L'agence estime que plus de 4500 migrants illégaux ont été interceptés ou secourus depuis le début de l'année au large des côtes libyennes et se sont retrouvés en détention arbitraire. le gouvernement soudanais, un groupe rebelle du sud du pays, le SPLM Nord, ont signé dimanche une déclaration de principe qui servira de base à de prochaines négociations de paix. Ce texte a été signé dans la capitale soudanaise, Juba, par le président du Conseil souverain, le général Abdel Fattah al-Burhan et Abdelaziz Alilou, chef du mouvement populaire de libération du Soudan Nord, SPLMN, implanté dans les états du Kordofan Sud et du Nil Bleu. Les deux parties conviendront d'un cessez-le-feu permanent une fois les dispositions de sécurité fixées dans le cadre du règlement global du conflit au Soudan, conclut-il. Dans un communiqué publié par l'agence officielle KCNA, un non-responsable du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a accusé le Conseil de sécurité de l'ONU, qui doit se réunir au sujet des tirs de missiles nord-coréens, de deux poids deux mesures selon que les projectiles soient lancés par la Corée du Nord ou par d'autres pays. La Corée du Nord a déclaré le 29 mars que le Conseil de sécurité des Nations Unies faisait du deux poids deux mesures après qu'un comité onusien a dénoncé les récents tests de missiles effectués par Pyongyang comme des violations de résolutions de l'ONU. Pyongyang a annoncé jeudi 25 mars avoir lancé un nouveau type de missile tactique à courte portée, poussant Washington à demander une réunion du comité des sanctions contre la Corée du Nord du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un représentant du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a rapporté que, durant la réunion, les États-Unis ont appelé à des sanctions supplémentaires contre la Corée du Nord et un renforcement de l'application des mesures existantes la visant. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. La Chine vient d'avoir le grelot. Fin de Pax Americana. L'Iran et la Chine ont signé samedi 27 mars un accord de coopération stratégique de 25 ans dans un contexte de sanctions américaines paralysantes contre Téhéran. L'accord baptisé Partenariat stratégique global couvre une variété d'activités économiques allant du pétrole et des mines à la promotion de l'activité industrielle en Iran, ainsi que les collaborations dans les transports et l'agriculture. Le New York Times a rapporté que dans le cadre de cet accord, la Chine investirait quelque 400 milliards de dollars en Iran en échange de pétrole. Les deux pays intensifieront également la coopération militaire avec des formations conjointes, des recherches et des échanges de renseignements. La Chine est le principal partenaire commercial de l'Iran et était l'un des plus gros acheteurs de pétrole iranien avant que l'ex-président américain Donald Trump ne réimpose des sanctions unilatérales radicales en 2018 suite à son retrait unilatéral du plan global d'action conjoint, accord de 2015 sur le nucléaire iranien. L'accord signé ce samedi est susceptible de saper l'influence des États-Unis au Moyen-Orient. Les sanctions américaines en cours contre l'Iran pourraient toutefois entraver son commerce avec la Chine, malgré le nouveau pacte entre les deux pays. Il s'agit du premier accord jamais signé par l'Iran avec une puissance mondiale sur une aussi longue durée. Cela dit, en 2001, l'Iran et la Russie ont signé un accord de coopération de 10 ans, principalement dans le domaine nucléaire, qui a été prolongé à 20 ans grâce à deux prolongations de 5 ans. Dans les semaines qui ont suivi l'investiture du président américain Joe Biden en janvier, les diplomates britanniques, français et allemands, sous couvert de l'anonymat, ont contacté la nouvelle administration, lui proposant un plan de relance de l'accord nucléaire de 2015 et de suppression de certaines sanctions qui avaient été levées par le président Barack Obama, puis réimposées par Donald Trump, lit-on dans l'édition du 26 mars du Foreign Policy. Les Européens ont conseillé aux Américains de le faire rapidement car tous les signaux envoyés du côté iranien faisaient état du respect de leurs engagements à condition que les États-Unis reviennent dans l'accord. A déclaré Gérard Haro, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, puis auprès de l'ONU, qui avait dirigé les négociations nucléaires de la France avec l'Iran et les autres puissances concernées. La meilleure façon d'avancer aurait été de revenir immédiatement au pacte nucléaire avec un décret, et ils ne l'ont pas fait. Le défi de conclure un accord, ajouté Haro, pourrait s'avérer insurmontable compte tenu de l'opposition croissante des États-Unis à un pacte qui laisserait l'Iran avec plus d'argent et sans nouvelles contraintes sur son programme de missiles balistiques. Ce sera compliqué, cela prendra des mois et cela risque d'échouer, a-t-il déclaré. Biden a plutôt insisté sur le fait que l'Iran devrait faire le premier pas en annulant un ensemble d'activités nucléaires qu'il a redémarré en réponse au rejet de l'accord par Trump. Les Européens ont estimé qu'ils devaient faire le premier pas, mais les Européens ont sous-estimé l'opposition politique nationale généralisée à l'accord qui a été menée par de puissants législateurs et démocrates et républicains, notamment le sénateur Bob Menendez, président démocrate de la Commission des affaires étrangères du Sénat, et le sénateur Lindsey Graham. Dans une lettre du 8 mars au président américain, les deux législateurs ont exhorté Biden à travailler avec des alliés clés, y compris des critiques du pacte nucléaire en Israël et dans les États du Golfe Persique, pour forger un nouvel accord qui non seulement limite les perspectives de l'Iran d'acquérir une bombe nucléaire, mais vérifie également sa capacité à déstabiliser la région et à faire progresser son programme de missiles balistiques. Le débat sur le réengagement avec l'Iran a ouvert des fissures au sein du Parti démocrate. Les progressistes craignent que la Maison-Blanche cède à la pression politique de Menendez, même si ses opinions bellicistes sont en décalage avec son caucus et avec la grande majorité des électeurs qui soutiennent la diplomatie contre la guerre. Comme l'a averti un assistant du Congrès s'exprimant sous couvert de l'anonymat. C'est un calcul politique. Pire, c'est un mauvais calcul politique, dit cet assistant du Congrès US.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du débat. L'Iran et la Chine ont signé samedi à Téhéran un accord de coopération sur le partenariat stratégique global sino-iranien de 25 ans. L'accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Les termes du pacte avaient été finalisés dans la matinée par le chef de la diplomatie chinoise et Ali Larijani, conseiller du leader de la révolution islamique et représentant iranien pour les relations stratégiques avec la Chine. Le pacte, en effet, est une feuille de route complète comportant des clauses politiques, stratégiques, mais aussi économiques. Le ministre chinois des Affaires étrangères est arrivé à Téhéran vendredi soir pour une visite officielle de 2 jours. Wang Yi est le plus haut, en effet, responsable chinois à effectuer une visite officielle à Téhéran depuis la visite du président chinois en janvier 2016. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur l'importance et le message de cet accord, de ce partenariat stratégique entre les deux pays, ses conséquences sur la donne régionale et internationale en matière notamment d'économie, mais aussi sur le plan militaire et bien entendu ses conséquences en effet sur les sanctions imposées par les États-Unis à l'Iran, mais aussi à la Chine, et la possibilité de la formation d'une nouvelle alliance politique, mais aussi militaire, sur le plan international. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
L'Iran et la Chine ont conclu samedi à Téhéran un accord de coopération stratégique et commerciale sur 25 ans en discussion depuis plusieurs années. Les derniers détails de l'accord ont été arrêtés dans la matinée lors d'une rencontre entre M. Wang et Ali Larijani, conseiller du leader de la révolution islamique et représentant iranien pour les relations stratégiques avec la République populaire de Chine. La genèse du pacte iran-chinois remonte à la visite du président chinois Xi Jinping à Téhéran en janvier 2016. Téhéran et Pékin s'étaient alors engagés dans un communiqué commun à mener des négociations pour la signature d'un accord de coopération élargi sur 25 ans et de coopérer et avoir des investissements réciproques dans les différents domaines, notamment les transports, les ports, l'énergie, l'industrie et les services. L'accord de coopération de 25 ans couvre différentes dimensions et comprend des clauses politiques aussi bien que des clauses économiques. L'accord traite toutes les dimensions des coopérations commerciales, économiques et de transport, ainsi que la part de contribution de l'Iran dans le projet de la ceinture et la route. L'accord prête une importance toute particulière à l'implication des secteurs privés des deux pays dans les projets communs. La signature de cet accord coïncide avec l'échec des efforts visant à renflouer le porte-conteneurs géant bloqué dans le canal de Suez. L'autorité égyptienne du canal de Suez a indiqué vendredi 26 mars au matin que la navigation dans le canal avait été temporairement suspendue jusqu'à la remise à flot du navire géant. Dans tout ceci, on ne peut ignorer le cadre chinois de l'affaire, puisque de Taïwan à qui appartient le bâtiment jusqu'à la Chine contre qui l'axe US-OTAN s'est radicalement mobilisé, il n'y a qu'un pas à franchir pour voir dans cette affaire la prolongation de cette guerre US-OTAN contre la Chine qui a été jusqu'ici au stade des sanctions et donc parfaitement inutile, mais qui tend désormais à prendre des allures des actes de piraterie de mer comme cet autre acte de sabotage qu'a connu le 11 mars le porte-conteneur iranien Shahrekord alors qu'il s'apprêtait à livrer sa cargaison à Banias en Syrie. Après tout, c'est par le Suez et le détroit de Bab el-Mandeb que la Chine commerce avec l'Europe.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Mikhail Gamandi-Egorov, analyste chroniqueur à l'agence Observateur Continental depuis Casablanca, et Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe. Vous savez que c'est toujours un plaisir de vous retrouver.
Merci. Monsieur Michel, alors, nouveau chapitre dans les relations sino-iraniennes, la signature de cet accord de partenariat stratégique sur 25 ans. Bien sûr, cet accord était en discussion depuis 2016, date de la visite du président chinois à Téhéran. Quelle est l'importance et le message de la signature de cet accord, Monsieur Michel?
C'est un tournant de la géopolitique mondiale. C'est un accord qui va beaucoup plus loin d'ailleurs que les rapports de l'Iran et de la Chine. Il concerne toute la structuration de l'Eurasie en masse. Napoléon disait que la géographie d'un État contenait toute sa politique. C'est la première réflexion géopolitique dans l'histoire. C'est la position de l'Iran, la position géographique, comme une espèce de plaque de carrefour vers le Proche-Orient, vers l'Afrique, mais aussi le contrôle des voies maritimes de la mer Rouge, qui sont essentielles aux Chinois. Cela fait de l'Iran la troisième capitale avec Moscou et Pékin de l'Eurasie en masse. Il y a quelques jours, d'ailleurs, les Iraniens étaient à Moscou où ils ont signé des accords sécuritaires et économiques avec la Russie. Là aussi, c'est l'intégration, puisqu'on parle à terme d'une intégration de l'Iran dans l'organisation du traité de sécurité collective, qui est la contre-entente de Moscou, et on parle d'une inclusion à terme de l'Iran dans l'espace économique eurasiatique. Ce qu'on est en train de constater, c'est que nous sommes entrés dans la troisième guerre, la guerre froide 3.0. La deuxième avait commencé en 2015. Elle était de portée limitée. Elle affrontait la Russie et les États-Unis. Ici, on est dans une guerre froide 3.0 qui concerne tout le bloc eurasiatique. Ce qui est nouveau, c'est le resserrement de deux blocs. Il y a un bloc géopolitique et géostratégique au cours des États-Unis avec les trois OTAN, ce qu'on appelle l'OTAN du Proche-Orient avec les Israéliens et les Émiratis, enfin ce qu'on appelle l'OTAN de l'Asie avec l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande. Face à celui-là, c'est ce qui est nouveau. Les États eurasiatiques n'affrontent plus les États-Unis en sont dispersés. Il y a la constitution d'un bloc eurasiatique qui va avoir des aspects militaires, économiques et géopolitiques. Et pour la première fois, vous savez que ce qui opposait il y a 5 ans l'Iran, la Russie ou la Chine, c'était des problèmes idéologiques. Aujourd'hui, il y a une idéologie qui va structurer le nouveau bloc eurasiatique. C'est l'anti-américanisme. C'est capital parce qu'une idéologie commune, elle souple les États.
Merci infiniment pour ces éclairages. Monsieur Michel, restez avec nous. On va tout de suite rejoindre Monsieur Goroff. Monsieur Goroff, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, merci pour m'avoir invité.
Monsieur Goroff, alors depuis plusieurs années, comme vous le savez très bien, les États-Unis en effet imposent des sanctions alors aux différents pays du monde. Et ces derniers temps, justement, l'administration américaine a intensifié ses sanctions contre la République islamique d'Iran, mais aussi la Chine et la Russie. Dans quelle mesure cet accord, la signature de cet accord de partenariat stratégique entre la Chine et la République islamique d'Iran pourra en effet affecter la politique américaine à l'égard justement de ces trois pays, à savoir l'Iran, la Russie et la Chine, et modifier les équations politiques, économiques, mais aussi militaires sur le plan international?
Bon, vous savez, moi je pense que tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'interaction qui a pris forme et qui est en train de continuer à prendre forme, à se renforcer dans le cadre du triumvirat Iran, Chine, Russie, je l'ai dit plusieurs fois et je le répète, c'est que je ne vois pas ça comme une réponse simplement aux attaques, aux agressions et aux pressions états-uniennes et plus généralement occidentales. C'est quelque chose de tout à fait logique, de naturel que trois grandes puissances du grand espace eurasien. Trois grandes civilisations, par la même occasion, renforcent leur interaction, d'autant plus qu'ils partagent beaucoup de convergences de points de vue, c'est l'intérêt principal. Faire des pressions qui émanent effectivement de Washington et de leurs alliés plus généralement otanesques, c'est effectivement qu'aujourd'hui, on voit que l'aspect idéologique prend une forme beaucoup plus pratique. Enfin, ça a commencé depuis déjà un certain moment, et maintenant, effectivement, on assiste à une accélération de ces processus, et on le voit aussi bien dans le cadre bilatéral entre la Russie et la Chine, entre la Russie et l'Iran, entre l'Iran et la Chine, et plus généralement entre tous les partisans du Conseil multipolaire mondial. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vu l'ampleur de ces accords, vu l'ampleur de ces processus d'intégration qu'on est en train d'observer, et notamment ce dernier accord qui maintenant a été officiellement signé entre la République islamique d'Iran et la République populaire de Chine, qui concerne des domaines très variés. Donc on parle d'économie, plus exactement on parle des centaines de milliards d'équivalents de dollars d'investissements chinois qui vont aller à destination de l'Iran. Donc ça, c'est une très bonne réponse justement à toutes ces pressions économiques auxquelles l'Iran a fait face et continue de faire face de la part des États-Unis et de nombre de leurs alliés. On parle de l'aspect évidemment sécuritaire, du partage des renseignements, surtout que l'on sait, les pays, notamment la Russie, la Chine, l'Iran, organisent déjà régulièrement des exercices militaires, on l'a vu notamment dans le Golfe d'Oman, et ça va continuer. Donc il y a véritablement un processus très puissant qui est en train de s'organiser, ça prend une forme de plus en plus active, cela sans oublier aussi qu'il y a une coordination très forte au niveau diplomatique entre les hauts représentants diplomatiques des trois pays, et cela renforce évidemment aussi bien le cadre eurasien, la puissance de l'Eurasie en tant que nouveau centre de la communauté véritablement internationale, et plus généralement, ça renforce tout simplement le cadre multipolaire du monde, qui est une réalité, mais que les élites occidentales, l'establishment occidental, refusent d'accepter et continuera de refuser d'accepter, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas leur montrer leur véritable place.
Merci pour ces précisions, Monsieur Gorov. Monsieur Michel, est-ce qu'avec la signature de cet accord, qui, rappelons-le, vous l'avez rappelé à juste titre, a constitué un tournant géostratégique sur le plan international, est-ce qu'avec la signature de cet accord, alors on pourrait pas assister en effet à la formation de nouvelles alliances censées mettre fin à l'unilatéralisme américain, à l'emprise du dollar, mais aussi en effet à la perspective justement des échanges politiques et économiques d'une grande ampleur.
L'arrogance militaire et l'arrogance économique des États-Unis avec la politique des sanctions, elle a conduit à l'unification en un bloc des gens qui étaient sanctionnés. Il faut rappeler les propos du Guy Tchameni à propos de cette alliance. Il a exprimé clairement que l'Iran était déçu par les Occidentaux, en fait l'Union européenne, qu'elle était agressée par les États-Unis et que ça l'avait conduit définitivement à choisir ce qu'elle appelle le bloc de l'Est, moi aussi j'appelle comme ça, et à choisir donc l'intégration eurasiatique. C'est un processus qui n'aura pas de retour en arrière et qui mène à la constitution d'une nouvelle grande puissance qui va réellement à contre-voie efficace aux États-Unis. Au milieu de tout cela, il y a la politique contre les sanctions. Vous savez qu'il y a déjà des plans de la Russie et de la Chine pour la dédollarisation de la vente du pétrole et du gaz. Il y a la constitution d'une OPEP du gaz avec les Vénézuéliens et les Iraniens et plusieurs pays africains. Et aujourd'hui, évidemment, avec les accords Iran-Chine, on va de nouveau s'attaquer aux sanctions américaines dans le domaine du pétrole. C'est un échec fondamental pour cette politique américaine, ce qui explique d'ailleurs que l'Amérique se tourne maintenant vers le militarisme et l'agression. C'est une porte qui avait été ouverte par Donald Trump, dont on nous racontait que Biden allait revenir aux amis Obama. En fait, Biden garde tous les acquis d'agressivité et de militarisme américain, toutes les portes vers l'enfer que Trump avait ouvertes. Et donc, il est normal que les gens qui sont face à cela s'unissent dans un processus. Ce processus, il est conditionné, je le répète, par la géographie. Le 22e siècle, ça va être l'état des blocs continentaux. Plus des grands ensembles géopolitiques, mais de l'unification continentale. Les États-Unis, c'est le premier état qui réalise ce bloc continental avec le Canada et le Mexique. Il y a eu les errements de Trump sur l'ALENA, mais le processus est toujours en cours. Et maintenant, c'est le temps aux adversaires des États-Unis d'unifier l'Eurasie avec le néo-eurasisme et les projets de route de la soie, donc ce qu'on appelle la Grande Europe de Vladimir Tokalisbon, que soutiennent Poutine et la France, mais aussi c'est le temps de l'unification d'un bloc africain vers lequel les Russes et les Chinois tentent la main. Le 22e siècle va voir l'affrontement de ces grands blocs continentaux, je le répète, qui sont sur une base essentiellement géographique. C'est la constitution de blocs, non plus avec des frontières géopolitiques, mais ce qu'on appelle des blocs sans rivage, c'est-à-dire sans adversaire déclaré à leurs frontières. Lorsque le bloc eurasiatique et le bloc africain auront réalisé leur unité, ce que j'appelle l'axe eurasiatique, l'Amérique redeviendra ce qu'elle est, une petite puissance régionale.
Merci encore, Monsieur Michel. Monsieur Egorov, ces nouvelles alliances constituent en effet, selon de nombreux analystes, un défi de taille pour l'administration américaine. Dans quelle mesure ces alliances et plus particulièrement cet accord de partenariat stratégique, mais aussi la formation en effet de cette alliance entre ces trois pays, l'Iran, la Russie et la Chine, pourraient affecter le plan américain, le projet américain dans la région, voire dans le monde?
Vous savez, déjà, si on commence par justement cet accord, ce grand accord de 25 ans, donc un quart du siècle, donc on parle vraiment d'un accord sur le long terme entre l'Iran et la Chine, déjà, il met à mal toute cette volonté que avait Washington d'asphyxier, pour reprendre leur propre terme, d'asphyxier l'économie iranienne. Parce que Washington avait dit dès le départ qu'à travers les sanctions qui visent l'Iran, l'objectif, c'est de détruire l'économie iranienne. Donc, malgré toutes les difficultés que l'Iran a dû subir face justement à ces sanctions économiques et énergétiques qu'il a vises de la part de Washington, non seulement l'Iran a tenu, mais avec cet accord qui a été signé avec Pékin, on peut véritablement parler d'un nouveau départ et de nouvelles perspectives, parce que quand on connaît les capacités économiques de la Chine et quand on connaît les engagements que la Chine compte prendre sur le plan économique dans le cadre de cet accord, sans même parler des autres volets qu'on a déjà abordés qui ont été mentionnés, c'est quand même effectivement ça met à mal toute cette politique états-unienne qui visait à détruire l'économie iranienne et à isoler l'Iran. D'ailleurs, en parlant d'isolement, encore une fois, et je l'ai dit plusieurs fois, l'Iran, probablement sur la scène régionale et même internationale, n'a jamais été aussi influent dans le cadre de son histoire contemporaine. Et effectivement, quand on parle maintenant du triumvirat Iran-Chine-Russie, c'est sûr que l'objectif, c'est de mettre à mal et de bloquer toutes ces tentatives d'un retour à l'ordre unipolaire qui essaie aujourd'hui de lancer l'administration Biden. D'ailleurs, on l'a vu lorsqu'il y a eu récemment la rencontre en Alaska entre les représentants diplomatiques chinois avec leurs homologues états-uniens. La référence qui a été donnée par les représentants états-uniens était très claire. Eux, leur volonté, c'est de forcer le monde à revenir au concept unipolaire qui est complètement dépassé et résolu. Et on a vu de quelle façon ferme les représentants chinois ont répondu. C'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, au même titre que la Russie et l'Iran, est déterminée à ne pas accepter ce processus. Et donc la Chine va accélérer tous les processus en cours pour justement renforcer le cadre multipolaire mondial, y compris dans le cadre de son interaction avec l'Iran et la Russie et d'autres nations qui constituent cet axe, ce grand axe eurasien et plus généralement l'axe de partisans du concept multipolaire mondial. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire encore, il y a beaucoup de stabilisation à apporter après le chaos que les élites atlantistes ont réalisé à divers endroits du monde, y compris dans la région du Moyen-Orient. Aujourd'hui, l'heure est à la sécurisation et à la stabilisation. Et c'est sûr que sans les efforts conjoints de la Chine, de l'Iran et de la Russie, il sera très difficile de pouvoir justement sécuriser le chaos qui a été propagé durant de très longues années par Washington, différentes administrations confondues et tous leurs alliés atlantiques. Mais le fait est qu'on en est là aujourd'hui. Aujourd'hui, cette confrontation est plus que jamais forte. Et quand on voit la détermination aussi bien de Pékin que de Moscou et de Téhéran, il est clair et net que Washington aura de plus en plus de mal à pouvoir continuer à maintenir cette politique. Ça ne veut pas dire pour autant que la politique de propager le chaos va arrêter et que les tentatives vont être stoppées tout de suite. Et le fait est que aujourd'hui, ce contrepoids qui existe sur la scène internationale permet d'entrevoir une stabilisation au niveau aussi bien régional qu'international.
Merci infiniment. Une toute dernière question à Monsieur Michel. Monsieur Michel, il y a une coordination de plus en plus étroite entre l'Iran, la Chine, mais aussi la Russie. Alors récemment, comme vous le savez, la Chine, la Russie et l'Iran ont mené des exercices militaires conjoints dans l'océan Indien. Il y a une semaine, le ministre russe des Affaires étrangères était en visite à Pékin. Il y a eu récemment, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, la signature de ces accords de sécurité. Justement, c'est le déplacement de cette délégation iranienne à Moscou. Donc, est-ce que ces évolutions pourraient ouvrir la voie à la formation d'une nouvelle alliance militaire, M. Michel?
Je vous l'ai dit, c'est la constitution d'un nouveau bloc autour d'une intégration militaire, économique et géopolitique. On en revient au fondement de la géopolitique. Vous savez que la géopolitique, elle oppose une puissance continentale qu'elle appelle le Heartland, c'est donc aujourd'hui la Russie et la Chine, au contrôle des anneaux extérieurs, ce qu'on appelle le Heartland. Il y a l'anneau extérieur européen, c'est l'Union européenne, et il y a l'anneau extérieur, c'est l'Afrique, de l'Afrique jusqu'au Sahel. Les projets, aussi bien de Poutine que de Xi Jinping que soutient l'Iran, c'est d'arracher l'Union européenne des mains américaines et d'arracher l'Afrique des mains américano-occidentales. Si on arrive à cela, c'est la défaite par les puissances continentales et thalassocratie en protection. C'est à ça que nous assistons. Nous assistons au très vite mouvement qui ne va pas se résoudre en quelques années. C'est un processus qui implique entre 50 ans à un siècle, qui est fondamental, mais ce qui est décisif, c'est que l'impulsion est lancée, on ne reviendra pas en arrière, il n'y a pas de possibilité, ni pour Moscou, ni pour Pékin, ni pour Téhéran, de se tourner à nouveau vers le bloc américain occidental. Donc c'est un processus irréversible. Maintenant, il faut le faire accélérer. C'est à cela qu'on est conscient à Moscou, à Pékin, à Téhéran, toute cette série de rencontres croisées, ces séries d'accords, de traités, tout cela est fondamental. Il y a un autre mouvement qu'il ne faut pas négliger, c'est l'arrivée des Russes aux côtés des Chinois et l'arrivée spectaculaire en ce moment des Iraniens au Sénégal, par exemple, en Afrique. C'est le plan qui se met en place pour contrer la superpuissance américaine et cette prétention au monde unipolaire dominé depuis Washington.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, Mikhail Gamondi-Gorov, analyste chroniqueur à l'Agence Observateur Continental depuis Casablanca. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup.
À bientôt.
À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à bientôt.
Merveille. Chers amis auditeurs, cette semaine, nous clôturons notre randonnée dans la province de Fars pour vous emmener la semaine prochaine à Isparan. Outre les monuments historiques et les attraits naturels de Fars, la province doit aussi sa renommée à nombre d'activités artisanales qui lui confèrent un prestige particulier. Dans cette émission, nous voulons évoquer quelques arts artisanaux comme le khatam ou la marqueterie, le monabat ou la sculpture sur bois et le kalamzani ou l'art du travail du métal, ainsi que les textiles tissés à la main comme les tapis, les klims et les gapés. Restez avec nous. Le gapé est un tissage traditionnel des tribus nomades. Comme le tapis, le gapé a des velours. Le gapé est la manifestation de la beauté et de la joie de la vie nomade. La couleur principale des gapés est verte, rappelant la couleur émeraude des plaines où vivent les tribus nomades. Les gapés sont tissés avec des laines colorées, teintées avec des pigments naturels. Divers motifs, inspirés de la nature, sont tissés par les mains de fées, des femmes et des filles rachraïs. Le motif du lion est l'un des motifs les plus aimés et les plus appréciés. Il est le symbole de l'honnêteté et rappelle le lion qui vit dans la plaine d'argent du Fars. Il existe aussi d'autres motifs tels que l'étoile et les animaux. Les gabés rachraïs sont tous en laine de dimension de 100 à 200 cm ou 200 à 115 cm. Le jajim est l'un des tissages sans velours tissés par les rachraïs. Ce sont des pièces tissées sans velours constituées de plusieurs bandes cousues. Les jajim servent de rideau ou de couvre-lit. Les jajim sont de toutes les couleurs, en général claires. Ils portent des motifs géométriques tels que des losanges, des rectangles, etc. Le kilim est un autre petit chef-d'œuvre créé par les femmes aux mains d'artistes tribus nomades de l'Iran. Les kilims rachraïs sont à 100% en laine. La couleur utilisée ne bouge pas au lavage et à la lumière, d'où la célébrité et le renom de ces kilims. À noter que toutes les étapes pour réaliser un kilim sont exécutées par les femmes elles-mêmes.
Elle tonde la laine, elle colore la laine, elle fabrique le cadre, elle tisse. Les tissages des tribus nomades diffèrent les uns des autres. Les motifs sont très divers, sans aucune esquisse préparée à l'avance. Ils laissent place à l'improvisation la plus totale et prennent forme au moment même du tissage grâce à l'imagination créative des artistes en herbe que sont les femmes Rashraï. Les œuvres réalisées n'ont pas ce côté répétitif comme les produits tissés dans les usines. Ils se distinguent tous par leur originalité. On peut même dire que les tissages des diverses tribus et confédérations sont divers du point de vue de la couleur, du motif, de la dimension ou de l'utilité. Mais tous témoignent de l'art raffiné et de la vie mouvementée et plein de dynamisme et de liesse des tribus nomades de l'Iran. Le travail de marqueterie, fin et minutieux, est un travail d'incrustation. Ce type d'artisanat consiste à réaliser des motifs d'incrustation, le plus souvent sous forme d'étoiles, au moyen de fines baguettes de bois, ébène, teck, jujubier, oranger, rosier, laiton pour les parties dorées et os de chameau, parties blanches. L'ivoire, l'or et l'argent peuvent également être utilisés pour les pièces de collection. Ces baguettes sont d'abord assemblées en faisceaux triangulaires, eux-mêmes réassemblées et collées en faisceaux selon un ordre strict pour former un cylindre d'environ 70 cm dont la tranche montre l'unité de base de la décoration finale. Une toile à 6 branches contenue dans un hexagone. Ces cylindres sont alors tranchés en cylindres plus courts, puis comprimés et séchés entre deux plaques de bois, avant de subir une dernière coupe réalisant des tranches d'environ 1 mm d'épaisseur. Ces dernières sont alors prêtes à être plaquées et collées sur l'objet support à décorer avant de subir une finition par laquage. Elles peuvent subir un chauffage préalable pour être ramollies si l'objet est galbé afin d'en épouser les courbes. Les objets décorés sont légions, boîtes, jeux d'échecs ou de backgammon, cadres, pipes, bureaux ou même instruments de musique. Le khatam peut également être associé aux fameuses miniatures persanes, réalisant ainsi de véritables œuvres d'art. Le monapat ou la sculpture sur bois est un autre art exécuté dans le Fars. La gravure de relief a une histoire qui remonte à des milliers d'années. Les reliefs élamites peuvent toujours être vus en Iran. Le monapat est une sorte de sculpture sur bois. La ville de Abadeh, dans le Fars, est célèbre, entre autres, pour ses monapats. Les plus belles œuvres de monapat, sous forme de boîtes, de jeux d'échecs, de meubles, etc., sont créées dans cette ville par les doigts de fées de ces artistes. Dans le Fars, notamment à Shiraz, l'art du travail du métal, le ralamzani, a aussi sa place. Des vaisselles en argent, en cuivre ou en bronze, décorées avec tout l'art et l'habileté que cette activité réclame, sont également les produits de cette province, sans oublier la céramique, la poterie, l'art du miroir, la miroiterie et la bijouterie, constituant tous de précieux souvenirs que les touristes peuvent acheter et emporter avec eux pour en faire cadeau à leurs proches et amis. Très chers amis auditeurs, nous sommes arrivés au terme de notre randonnée dans le Fars. Nous vous invitons à nous accompagner la semaine prochaine pour un autre voyage dans l'espace et le temps à la découverte d'Ispahan, la moitié du monde, afin de vous familiariser avec ses attraits et ses beautés historiques, architecturales, artistiques et naturelles. D'ici là, au revoir et bonne semaine.
Thank you.